Bien, la guerre a éclaté principalement parce que le conflit entre le gouvernement de transition qui avait été instauré après les révolutions de 2011 s'est plus ou moins écroulé et est venu en conflit total avec un mouvement Houthi, un mouvement intégriste zaydite, qui est une variété d'islam chiite, mais très différente de ce qu'on a en Iran, qui était d'un côté et qui se sont mis en alliance avec l'ancien président Ali Abdallah Saleh, disons pour renverser ce gouvernement de transition qui avait été instauré en 2012.
Suite à ça, donc les rebelles ont pris le contrôle d'une partie du pays et il y a d'autres acteurs proches des acteurs des pays arabes, notamment plusieurs coalitions qui sont entrées en jeu dans ce conflit.
Oui, c'est-à-dire qu'une fois que le gouvernement de transition s'est démis et arrêté de fonctionner et que le chef du gouvernement et certains des membres de son gouvernement se sont retirés de la capitale, donc les Houthis, en association avec les groupements d'Ali Abdallah Saleh, ont pris le contrôle total de la capitale et de toutes les régions principalement montagneuses du nord du pays. Le gouvernement reconnu internationalement du président Hadi, c'est-à-dire le gouvernement de transition, avait été instauré largement grâce à un accord qui s'appelle l'accord des pays de coopération du Golfe en 2012. Et le président Hadi a fait appel à l'Arabie Saoudite pour le restaurer, le remettre en place, en position, à Sanaa. Et donc l'Arabie a formé une coalition, en fait, composée principalement d'eux-mêmes et des Émirats arabes unis, avec aussi différents autres pays qui y sont intervenus, mais principalement ils sont là pour raisons financières et pour obtenir du soutien ou pour continuer leur soutien de l'Arabie et des Émirats. Et donc eux sont intervenus activement à partir du mois de mars, fin mars 2015, et sont encore principalement les principaux commanditaires, en fait, de la guerre actuelle. Donc on a en fait une guerre internationale qui est superposée sur une guerre civile qui existe encore sur le terrain.
C'est une espèce de guerre froide régionale, une espèce de guerre par procuration qui se fait à cet endroit-là, c'est ça que je voulais dire.
Oui, c'est-à-dire que le problème pour les Saoudiens, c'est que quand ils ont commencé leur intervention, ils pensaient que c'était une affaire d'une quinzaine de jours et que ça serait terminé. Et officiellement, ils sont encore là pour réinstaurer le président Hadi à sa position. Mais en pratique, d'une part, par le fait que ça, on est maintenant près de l'anniversaire de 4 ans de début de cette intervention, et il est parfaitement évident que loin d'avoir obtenu une victoire rapide, ils sont complètement enlisés. Donc, c'est d'une part pratique politiquement de dire qu'ils sont principalement en guerre contre l'Iran par procuration, ça a plusieurs avantages, c'est-à-dire que d'une part, ça leur permet d'obtenir un soutien à 100% de président Trump, et d'autre part, ça explique un peu leur défaite, en fait, disons leur incapacité de gagner cette guerre. Parce que c'est difficile d'expliquer comment, avec les milliards de dollars qu'ils ont dépensés en armement, etc., un peu partout dans le monde, dont la France, l'Angleterre, les États-Unis et l'Allemagne, et avec tout ça, ils n'ont pas réussi à gagner une guerre contre un groupe de montagnards avec quelques Kalachnikovs et quelques SCAD améliorés achetés pendant les années 90 et 2000. Donc l'aspect guerre par procuration, c'est un aspect qui est très noté internationalement, mais en réalité, on a en fait un problème fondamental au Yémen sur lequel a été superposé cet élément pour les raisons que je viens d'expliquer.
Et en attendant, c'est la population civile qui trinque, puisque cette guerre est pour la population mortelle déjà et pose de nombreux problèmes humanitaires dans le pays.
Absolument. Et ça, c'est l'aspect, à mon avis, le plus choquant et le plus honteux de toute l'affaire, c'est que pendant que certains individus dans tous les côtés dans cette guerre gagnent des sous et s'enrichissent et s'achètent des palais ailleurs, c'est la population, donc on parle de 28 millions de Yéménites, dont 22 millions sont ce que les Nations Unies appellent en cas d'urgence pour du point de vue de la nutrition. Bon, en réalité, ce sont des gens qui sont en train de mourir de faim. Ils se font bombarder. Le blocus imposé par la coalition sur les arrivages de nourriture d'essence et de toutes les nécessités de base sont en fait responsables de beaucoup plus de morts que la guerre elle-même, que les bombardements et les batailles. Mais on parle d'une situation où le nombre de morts officiels de la guerre a été augmenté récemment par une étude américaine qui dit qu'il y a 60 000 personnes qui sont mortes directement par des activités militaires, mais il y a des milliers d'autres qui sont morts de faim. Mais il n'y a pas de statistiques détaillées là-dessus, d'une part, parce que les Yéménites n'ont pas tant tendance à, quand ils meurent de faim, de rester chez eux et d'y mourir, plutôt que d'aller sur les routes comme ça a été vu en Somalie ou en Soudan ou dans d'autres pays. Et surtout qu'on n'a pas de chiffres et personne ne veut en sortir parce que même pour les Nations Unies, ils ont reçu presque 3 milliards de dollars l'année dernière pour l'aide humanitaire et ça n'a pas empêché la situation de se détériorer très sérieusement et d'une façon continue.
Aujourd'hui, il y a une trêve depuis le 18 décembre exactement, qui, je lisais, semble respectée selon des observateurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir d'asseoir les deux parties à la table des négociations et de faire que ces négociations puissent aboutir à quelque chose aujourd'hui? Ou pour vous, c'est une nouvelle tentative qui est vouée à l'échec une nouvelle fois?
Oui, c'est-à-dire c'est une trêve. Premièrement, il faut noter que la trêve est uniquement autour de Hodeïda, c'est-à-dire que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, a approuvé la résolution 2451 pour faciliter l'arrivage de l'aide humanitaire et des éléments de base pour empêcher une famine totale dans le pays où on aurait des millions de morts. Donc la trêve a été signé, l'accord de Stockholm a été signé dans cette perspective. La trêve tient encore, disons, à Hodeïda. Il y a tous les jours, il y a des petites affaires militaires, mais c'est vraiment le problème, c'est qu'il doit y avoir des accords, il doit y avoir un comité de redéploiement des forces, il doit y avoir tout un tas de phénomènes très importants pour la mise en œuvre. Mais par exemple, le simple fait que le général responsable de ce comité avait mis un accord pour que le 29 décembre, la route qui va de Hodeïda vers l'intérieur du pays, là où les gens ont le plus besoin des choses, devait être rouverte le 29 décembre parce qu'elle avait été bloquée à partir, je crois, du mois d'octobre par une offensive militaire de la coalition contre les Houthis. Cette réouverture ne s'est pas produite. Il n'y a pas eu d'accord. C'est-à-dire qu'actuellement, on a plus ou moins une trêve autour de Hodeïda, mais tous les éléments qui doivent se suivre, c'est-à-dire les éléments qui vont faciliter des accords et des négociations et des discussions et une amélioration de la situation de la population, ne se sont pas produits. La réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui est censée principalement produire un accord des Nations Unies pour financer un groupe d'observation d'éléments des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il y a quelques éléments qui y sont déjà, mais actuellement ils sont sur un accord temporaire des Nations Unies, il faut le confirmer pour 6 mois et augmenter le nombre de personnes qui vont y participer. Mais à mon avis, l'accord de Stockholm a été fait principalement suite à des pressions internationales très considérables, en partie à cause de l'affaire Khashoggi, ce qui est aussi une autre histoire, mais principalement à cause pour réduire le désastre humanitaire, parce qu'on ne peut vraiment pas dire plus que ça. Le fait est que, juste avant ça, l'offensive sur Hodeïda de la coalition ils l'ont arrêté avec grande résistance. La coalition veut vraiment gagner Hodeida et en sortir les Houthis. La plupart des experts, y compris moi-même, sont tout à fait convaincus que cela ne sera pas une défaite des Houthis, même s'ils le font, mais ça sera un désastre humanitaire sans comparaison au niveau mondial. Donc, en fait, disons, pour moi, les discussions de Stockholm sont vraiment un début d'un début d'un début, pas plus que ça. Jusqu'à maintenant, leur application n'est vraiment pas, mis à part le fait qu'il n'y a pas de vraie bagarre sérieuse autour de Hodeida, il n'y a vraiment rien d'autre qui a été obtenu jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y aura plus de discussions plus tard cette année, ça m'étonnerait fort qu'elles se fassent au mois de janvier. Mais d'abord, il faudrait pouvoir un peu mettre en œuvre ce qui a été décidé et surtout avoir un impact sur la situation humanitaire. Elle était sur nos télés, sur nos trucs visuels quotidiennement là jusqu'au mois d'octobre, novembre, décembre. Je sais qu'ici en Angleterre, ce n'est plus le cas maintenant. Les gens oublient, les Nations Unies n'oublient pas, mais la pression internationale est à mon avis la seule chose qui persuaderait les parties impliquées à prendre les négociations sérieusement. Parce qu'actuellement, sans pression internationale, les deux parties considèrent qu'ils peuvent gagner, donc sont prêts à continuer militairement. Et vous l'avez déjà dit, mais je le répète, cela, c'est aux dépens de la vie, de la survie, des conditions de vie d'une population de 29 millions de personnes, dont la plupart sont dans des conditions parfaitement catastrophique. C'est vraiment, c'est honteux. Je regrette, mais il n'y a pas d'autre mot.